Bella ciao, ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, mi seppellirai sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai sulla montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus 106.6, à l'émission Derrière la vitrine, l'émission des syndicats d'étudiants et de personnel de l'Université d'Ille. Bonjour à tous. Donc en fait cette émission elle sera consacrée au logement et notamment au logement étudiant puisque nous avons un invité Boubacar, vice-président de la Férule. Salut Boubacar.
Oui, salut Tristan, ça va?
Ça va, c'est Tristan. Oui, moi c'est Tristan de Sud. Pour l'instant, on est que deux donc on va
en espérant que les autres ils arrivent.
En espérant que les autres syndicats vont arriver, mais on peut toujours faire une petite émission spéciale étudiante quoi. Enfin voilà. Alors du coup toi tu es dans une association qui aide des étudiants en résidence universitaire.
Oui.
D'ailleurs, tu viens de quelle résidence universitaire d'ailleurs toi?
Bah, en gros, et je vais commencer comme tu l'as si bien dit, moi c'est Dembélé Boubacar, c'est qui est vice-président de la Férule. Je suis, on va dire, la Férule, le but de la Férule c'est de mettre la vie en résidence, lutter ouais. contre l'isolement des étudiants. C'est-à-dire que souvent, on va dire, et mettre la vie en résidence c'est quoi? C'est animer les foyers de vie, organiser des soirées et faire des projets dans le sens de mettre la vie pour que les étudiants ne se sentent pas trop isolés, quoi. Lutter contre l'isolement des étudiants et leur venir en aide. Et l'autre objectif, parce qu'il y en a deux, l'autre objectif c'est de défendre les étudiants, les résidents, et en même temps et de défendre leurs droits en résidence universitaire, quoi.
Ok. Oui. Et alors du coup...
Et comme tu l'as si bien dit, moi je suis dans la résidence Hélène Boucher. Oui, oui. Et l'année passée, j'étais représentant là-bas, quoi.
D'accord. Tu étais élu en conseil de résidence, c'est ça?
Oui, j'étais élu en conseil de résidence, oui.
D'accord. Oui, parce que Boucher, moi j'y suis allé plusieurs fois. Au niveau de l'insalubrité, c'est pas joli, en fait. Il y a des cafards, etc. Du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement à la Férule pour lutter contre ça?
Bah, l'année passée, comme tu l'as si bien dit, l'année passée, il y avait des problèmes d'insalubrité.
Ouais.
On a fait une campagne des douches et contre l'insalubrité. Et ça a été un succès parce que franchement après ça on va dire et ça s'est amélioré, quoi. On a fait des pétitions, on a fait une campagne qui a abouti finalement et a bouché. Franchement là maintenant les douches, on va dire ça va, mais on peut pas aller aussi, mais sinon franchement là ça va comparé à l'année dernière. On a fait une campagne et cette année aussi on a fait, l'année passée c'était la campagne contre les douches et contre l'insalubrité et tout, pour que les étudiants ils aient des logements décents, on va dire, parce que le minimum c'est on paye, donc il faut qu'on ait des trucs et un toit, quoi.
Ouais.
Et après, le second truc, c'est que cette année, on a fait une marche aussi pour l'étudiant mahorais qui est
mort
à son âme. Et du coup, on tient à lui rendre hommage, à lui et à toutes les victimes aussi, quoi.
Oui.
Parce que je tiens à préciser qu'il est mort suite à un événement tragique. Parce que là, pour l'instant, on ne connaît pas les causes. Mais d'après certains, on va dire la mère, les dires de la mère, il paraît qu'il est mort suite à des problèmes de faim et tout. Quoi. Mmh. Du coup, c'est une cause tragique. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une marche pour lui rendre hommage. Et en même temps, lutter et pour les autres étudiants qui sont dans le même cas, quoi.
Tout à fait. Donc, du coup, en fait, vous luttez pour. Un petit problème de technique, pas de problème. je disais, vous luttez pour comment dire, sortir des étudiants des étudiants en résidence universitaire de leur isolement. Donc, tu parlais de la dernière marche qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, notamment avec des étudiants de, enfin pour rendre hommage à des étudiants qui étaient morts à Gadois, c'est ça. Et du coup, il y a eu du monde à cette marche, c'était bien, c'était à Lina.
Oui, on va dire, et la marche, elle a débuté de Galois. On va dire, on a terminé la marche à la résidence, et, on va dire, Bachelard, et devant l'antenne du Crous.
Tout à fait.
C'est pour que le but de la marche, c'était, comme je l'ai si bien dit, de rendre hommage, et en même temps de revendiquer, on va dire, de meilleures conditions de vie, tu vois, pour les étudiants en résidence universitaire, quoi. Et du coup, la marche a réuni au moins une centaine de personnes. Plus qu'une centaine, et vous pouvez voir dans certains articles. Quoi.
Ouais, d'accord. Donc est-ce que le Crous vous a écouté après cette marche ou a fait semblant de rien? Est-ce que du coup vous avez réussi à avoir un impact au niveau en faisant une manifestation, ils vous ont entendu un petit peu, ils ont essayé de changer des choses ou pas du tout?
Voilà, maintenant on est toujours, on va dire, ils nous ont, parce que ça a eu de l'impact. Donc là maintenant on est toujours, on va dire, un pourparler. Du coup on peut pas trop parler sur ça, quoi.
Ouais.
Du coup là on est toujours un pourparler avec le Crous, parce que ce qu'on dit aussi, il y a d'autres problèmes aussi, que on va dire, il y a des problèmes parce que il y a pas de vie en résidence. C'est-à-dire qu'il y a des résidences qui n'ont pas de foyer de vie. Là on est en train de lutter pour ça. Du coup on est en train de les voir pour ça. Il y a des résidences qui ont des problèmes de sécurité aussi. C'est-à-dire que franchement, il y a des résidences, ça va pas côté sécurité. Du coup, on est en train de lutter pour tout ça aussi, quoi. Du coup, on est là maintenant, on peut pas trop le dire, mais on est en pour parler avec le Crous. On va dire que c'est en train de changer et tout, quoi.
Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est dommage qu'il ait fallu un mort pour ça, quoi. Enfin, c'est tragique.
Bon, c'est ce que je dis souvent, c'est pas que, on va dire, nous on se bat de notre côté. C'est le truc aussi, c'est que, on va dire, chaque étudiant doit faire de même. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, un petit bonjour, un petit bonsoir, et ça fait rien de mal, parce que nous de notre côté à la Férule, chaque étudiant qu'on voit, on lui parle, on essaie de voir s'il a des problèmes, on l'accompagne dans ses démarches aussi. C'est comme là sur notre site, on a fait un truc pour les DSE, les démarches pour le dossier social étudiant, donc ainsi de suite, quoi. Donc c'est, on va dire, ça commence, nous on se bat de notre côté, mais je pense que tout le monde devrait en faire de autant, quoi, comme la Férule, les autres syndicats, quoi, comme vous l'avez dit.
Oui, c'est toujours bien d'essayer de ramener de la vie en résidence et de sortir les étudiants de leur isolement, surtout qu'en fait, les résidences, il y a énormément d'étudiants, notamment étrangers, qui vivent là-bas et qui, du coup, se sentent un petit peu, isolés par rapport à leur famille et par rapport à leurs études. Oui, nous, en tout cas, au sein de notre syndicat, on défend les étudiants, quels qu'ils soient, qu'ils soient de résidence universitaire ou qu'ils habitent dans des appartements ou qu'ils habitent chez leurs parents, même si dans l'université de... Dans la métropole de Lille, il y a seulement 10% à peu près, je crois, des étudiants qui vivent en résidence universitaire, ce qui est quand même très très peu, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui ont accès aux résidences universitaires. C'est super compliqué d'avoir une résidence universitaire.
Ouais. Bah, et on va dire, et là on est, parce que ça aussi c'est peut-être dû, on va dire, on est en train de lutter pour ça aussi, mais on va dire, ça aussi c'est peut-être dû parce qu'il y a des étudiants qui ont leurs parents sur place, comme vous l'avez si bien dit. Il y a des étudiants aussi qui préfèrent aller, on va dire, et prendre des appartements plutôt que de venir en résidence. Ouais. Et il y a d'autres aussi qui avec les événements tragiques, ils ont quitté les résidences, quoi. Et
ouais,
notre but,
c'est
d'améliorer les conditions de vie pour que les étudiants, ils se sentent à l'aise et que, on va dire, le minimum, quoi, pour que tout le monde puisse, et on va dire, il y a la cohésion, l'harmonie et l'entraide au sein de la résidence, quoi. D'où l'organisation d'événements, comme, on va dire, des soirées, comme l'événement, et l'ouverture d'un foyer de vie, parce que ça permet aux étudiants qui ne se connaissent pas, ça crée, on va dire, un espace convivial de rencontre d'abord. Ils peuvent se rencontrer, échanger, et après, ils deviennent des amis comme ça, quoi.
Oui, bah c'est très bien de faire ce genre de choses. Moi, je disais qu'il y avait peu d'étudiants en résidence universitaire dans la métropole, mais c'est aussi parce qu'il y a aussi peu de logements qui sont... Il y a très peu de logements qui sont construits. Mmh. Il y a une résidence qui va être construite à Pont-de-Bois dans pas longtemps, d'après ce que je sais. Mais ça serait bien qu'il y ait plus de résidences universitaires, vu que... enfin, plus de résidences unitaires et plus de résidences qui sont rénovées, parce que déjà, vu l'état des résidences, enfin, on pourrait se demander ça, quoi, en fait. Pour expliquer, enfin, d'après ce que tu disais, il y a beaucoup de gens qui habitent encore chez leurs parents. Dans la région, oui, c'est normal. En fait, en tout cas, à Lille, il y a plus de gens qui sont en résidence universitaire, mais il y a très peu de résidences universitaires dans des petites villes. Enfin, des petites villes. Des petites universités, par exemple, à Valenciennes ou à Dunkerque, Calais, Boulogne, parce que les universités sont plus petites. Du coup, des gens préfèrent rester un peu chez leurs parents, parce que ça, bah, évidemment, ça coûte moins cher d'habiter chez ses parents plutôt que d'aller dans une résidence universitaire dans la ville où tu habites depuis que tu es gosse, quoi. Enfin, c'est assez logique.
Comme vous avez dit, on peut dire qu'il y a 10%, mais c'est ce que je disais bien. Et si on regarde d'un côté, vous avez raison, mais après, les 10% aussi, c'est parce qu'on va dire, il y a des bâtiments à rénover.
Il y a des
résidences aussi, on va dire, où il n'y a pas de conditions de vie décentes, c'est-à-dire que la sécurité n'est pas très bien assurée. Et je pense qu'il y a tous ces problèmes-là, et c'est bien de construire des résidences. Mais après, si on construit des résidences, il faut qu'il y ait le minimum aussi, quoi.
Il faut qu'il y ait les moyens qui soient
donnés. Voilà, il faut qu'il y ait les moyens, et je pense que c'est ça qu'on est en train de voir. Mais après, on va dire, c'est-à-dire que là, on est même en train de faire, comme vous l'avez si bien dit, et la campagne We First, c'est-à-dire que là, maintenant...
La campagne We First.
We First, et ça arrive dans peu de temps, c'est-à-dire que c'est pour lutter, parce que là, le Wi-Fi en résidence, franchement, c'est, on va dire, les gens se plaignent trop.
Oui.
Et on va dire, on paye, et depuis janvier 2014, c'est devenu obligatoire dans les loyers.
Oui,
et avant, c'était 15 euros comme ça, 14 euros. Mais là, nous, on s'est battu pour que ça soit aux alentours de 9 euros, 10 euros.
Tout à fait.
Et on a pu avoir cette réduction. Mais là, maintenant, on continue à faire l'effort. C'est soit, parce que le problème, c'est que le Wi-Fi, il est obligatoire. Mais sauf qu'on n'a pas on va dire, on paye, mais on nous doit. On paye pour un truc qui ne nous sert pas.
Oui, tout à fait.
Franchement, il n'y a même pas de Wi-Fi, quoi. On n'arrive même pas à se connecter, quoi.
Le débit, il est merdique, on est d'accord.
Et en plus, il y a même un étudiant qui a été obligé de taper sa mémoire et sur son téléphone à cause de ça. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on est en train de faire ça, pour essayer de...
Écoute, on va peut-être faire une petite pause musicale et après, on va reparler un petit peu de la mobilisation sur We First et sur Smart Campus après la petite pause. On va écouter Shuriken Samurai maintenant.
À me regarder.
Toujours vif, comme au premier jour de cours. Au tour à tour, les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge, entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération, en guerre permanente avec les autres. Les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni où tu te crois, mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les dents grincent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un caille, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby, carte grandit entre le fer et la foi. La foi, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé, la nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule caisse, les pépettes, quand t'as les sous, tu drives une 720. Et tu touches des seins en lutte, souvent on bute sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées. Les gens ont changé, la rue est mal fréquentée, surtout sur
pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour. Je verse un verset pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça, même vaincu, on se jettera dans la bataille. Pour l'honneur, comme un samouraï.
On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6, l'émission Derrière la vitrine des étudiants et des personnels de l'Université d'Ida. Bon, alors du coup, on va retourner sur WeFirst. Tu me disais tout à l'heure que vous parliez, que vous avez fait une campagne, enfin vous avez lancé une campagne sur WeFirst. Vous avez fait une petite réunion la semaine dernière. Tu pourrais m'en causer un petit peu?
Oui, on a fait une réunion, on va dire, et sur la campagne WeFirst, et c'était pour dénoncer, pour que les gens viennent, ils nous expliquent et quel problème est-ce qu'ils rencontrent avec WeFirst et tout. Franchement, ça s'est bien passé. Et le truc là maintenant, c'est que et je le disais si bien, c'est que là maintenant la campagne, on va le commencer en faisant une vidéo d'abord. Et je pense qu'après la vidéo, on va après décider de comment on va faire. Mais pour l'instant, on a décidé de ne pas trop,
tout à fait,
donner trop de directives. Mais je peux vous donner les lignes directrices, on va dire. Il y a la vidéo qui va venir dans peu de temps. Après, on va essayer de faire une pétition, c'est-à-dire que mobiliser les gens et pour que ça puisse bouger, quoi. Parce que franchement, là, dans ces conditions, parce que même lors de la réunion, il y a des étudiants, c'est pas qu'une résidence, c'est tous les résidences qui sont impactées par le problème, quoi. Et du coup, c'est ça, c'est soit on fait, c'est pas obligatoire, WeFirst, ça devient pas obligatoire, c'est-à-dire que ça devient une option. Soit si c'est obligatoire, il nous faut le minimum au moins, c'est-à-dire
le minimum de débit, c'est ça,
voilà, le minimum de débit. Non, là le problème c'est pas d'avoir le minimum de débit, on n'a même pas internet.
Pour parler du débit,
t'as le débit, on va dire t'as la barre des connexions, mais ton PC il te dit pas de connexion, quoi, pas internet, quoi. Du coup, quand tu te connectes, souvent il y a des gens, ils ont des barres, mais après vous pouvez pas vous connecter. Donc du coup, je pense que soit on nous fait le wifi, et c'est une option, c'est pas obligatoire. Soit si on le rend obligatoire, c'est qu'on a le minimum de débit, c'est-à-dire que qui est légal, c'est-à-dire et que on va pas, vous allez pas juste voir la barre comme ça et ne pas pouvoir vous connecter, quoi.
Ok.
Parce qu'à cause de ça aussi, il y a un étudiant qui nous a dit, il y a des étudiants aussi, à cause de ça, imaginez un étudiant qui a un examen le lendemain, il doit aller faire des recherches et qu'il n'a pas internet. Franchement, il peut être pénalisé. Et le prof, vous n'allez pas venir lui dire, j'avais un problème d'internet, il va vous demander un justificatif.
Surtout que les salles informatiques ne sont pas forcément toujours ouvertes.
La nuit, c'est surtout la nuit.
Et
vers 18h ou un truc comme ça. Et imaginez, vous allez dire ça à un prof, vous n'allez pas pouvoir lui amener un justificatif comme quoi c'est ça. Or, vous voyez la barre.
Bonjour, même si vous prenez Wi-Fi ne fonctionne pas, j'ai pas pu faire mon exercice, quoi. Enfin, c'est.
Même si vous prenez en photo, le souci, c'est qu'on voit la barre, mais sauf qu'il n'y a pas internet.
Donc, du coup,
il va dire, mais t'avais la barre, mais sauf qu'il n'y avait pas internet.
C'est un scandale que, du coup, vous soyez obligé de payer et qu'en plus, ça ne fonctionne pas. Nous, en tant que syndicat, suite étudiant, on avait demandé, c'était il y a deux ans peut-être. Ouais, on avait demandé il y a deux ou trois ans à l'université d'Ile-1 s'ils ne pouvaient pas prendre en charge le Wi-Fi des résidences universitaires qui sont présentes à Cité Scientifique à la place de WeFirst. L'université d'Ile-1 nous avait dit que c'était totalement possible, notamment parce que la connexion d'Ile-1 elle marche assez bien. Mais c'est de Crous qui ne voulait pas, en fait. De Crous ne voulait pas parce qu'en fait, ils avaient un accord avec Smart Campus.
Vous avez fait ça vers quand et
C'était en 2013-2014, dans cette année-là. En fait, on veut bien, mais De Crous ne veut pas, quoi. C'était un partenariat national avec De Crous, en fait. Smart Campus, c'était présent. Enfin, je ne sais pas si c'était national, mais en tout cas, au moins régional. De Crous, ça m'a partenariat.
Ce que je comprends bien, c'est que dans ce cadre-là, et l'université et la connexion de l'université, ce sera gratuit pour les étudiants qui visaient sur le campus. Comparé à Smart Campus.
Ouais, l'université voulait bien, mais De Crous nous avait dit, De Crous pas nous directement, mais ils avaient dit à l'université, c'est pas possible. Parce qu'il y a une convention, machin, enfin. Je comprends pas trop l'intérêt, mais apparemment, ça doit être, comment dire, ça doit être une convention spécifique, et du coup, l'université vous voulait pas, enfin, le CROUS ne voulait pas.
Parce qu'un groupe, peut-être, parce que pour que le CROUS il fasse ça, peut-être c'est des appels d'offres, mais après, c'est
peut-être,
pas, voilà.
Peut-être.
Mais après, si c'est jamais l'université mettait ça à disposition, et gratuitement à la disposition des étudiants, je vois pas pourquoi. Mais si jamais, et peut-être c'est dû, peut-être, ils sont contraints aussi, peut-être, à leur appel d'offres et tout, mais on sait pas aussi, quoi.
Faudrait qu'on s'en renseigne.
Il faudrait qu'on s'en renseigne plus en détail.
En tout cas, tous les étudiants, des cités de Lille 1, ils peuvent venir, ils sont les bienvenus, par exemple, de venir à la maison des étudiants dans salle informatique ou avec leur ordinateur portable pour capter le Wi-Fi ou avec leur smartphone ou n'importe quoi, parce que là-bas, on capte le Wi-Fi. Donc, ouais, je sais que quand on dort sur place et que c'est compliqué et qu'on doit bosser, on aime bien avoir son internet et travailler là-dessus. Mais la maison des étudiants d'Ilin est ouverte à tout le monde, quoi. Ça serait, c'est une bonne chose. Après, le Wi-Fi en résidence, on va dire que c'est quand même une augmentation de loyer cachée, quoi.
Enfin, c'est ça le truc, c'est pour ça qu'on se bat, parce que, et on va dire, comme tu l'as si bien dit, le Wi-Fi, c'est l'augmentation des loyers. Bah, franchement, et si c'est, on va dire, c'est obligatoire, et pour un étudiant, 9 €, c'est un peu, on va dire, c'est un peu trop.
Oui.
Je pense que t'es étudiant, tu le comprends si bien. Bah, c'est pas si t'es en résidence ou pas d'abord. En résidence ou pas?
Non, moi je ne suis pas en résidence, mais j'ai beaucoup d'amis qui habitent en résidence.
Ok, bah.
J'avais un copain qui habitait à Boucher et il m'avait montré les moisissures son mur. Enfin, on a fait quelques soirées là-dedans, quoi.
Ouais, c'est pour ça aussi, comme tu l'as si bien dit, tu vois, parce que, après, je sais pas si t'es passé ces temps-ci, mais à Boucher maintenant, on va pas dire c'est le meilleur aussi, mais ça
a été rénové quand même.
Ça a été rénové, quoi. Parce
que
on se bat pour ça et on est là pour ça. C'est comme c'est pas que à Boucher, à Camus, par exemple aussi, il y a eu la campagne, tout a été rénové. On va dire maintenant, ça va, quoi. Mais après, on est toujours en train de se battre aussi, c'est ça le truc. Hein. Parce que le truc, c'est que, comme je l'ai si bien dit, et c'est que même si, comme tu l'as bien dit, la M2, si c'est ouvert, les étudiants ils peuvent aller. Il n'y a pas que la M2, il y a la BU, comme
la
tu
BU,
l'as dit.
La BU, oui.
Le centre de doc.
Le centre de doc.
Ainsi de suite. Donc, les étudiants, n'hésitez pas. Mais le souci, c'est que si jamais, et ça, tous ces trucs, ça ferme vers 18h, aux alentours de 18h, 19h, et que les étudiants, ils doivent travailler.
C'est pas une solution, c'est un pansement, quoi.
On va dire c'est une solution, mais on va dire c'est pas.
C'est pas dans le temps, ouais.
Voilà. C'est pas dans le temps. C'est pas dans la durée, quoi. Parce que là, on peut s'en servir, mais après, c'est compliqué aussi. Donc, du coup, là, maintenant, c'est pour ça qu'on se bat pour We First, pour qu'on puisse améliorer nos conditions, quoi. Parce que là, franchement, si on continue comme ça, je pense que ça va pas aller, quoi. Une résidence, c'est partout. Tout le monde se plaint. Et il faut bouger, quoi.
Il faut rejoindre la Férule, les associations de résidents.
Il faut adhérer à la Férule, il faut venir nous aider, parce que toute personne qui est là, on est là pour vous, les étudiants, on est là pour vous accompagner dans vos démarches. Si vous avez un souci, on est là pour ça, quoi. Et mettre de la vie en résidence.
Et d'ailleurs, du coup, vous êtes présent dans beaucoup de résidences universitaires, la Férule, à Lille ?
On va dire qu'on est à peu près dans 9 résidences universitaires.
Donc, de Pont-de-Bois ?
On va dire de Lille jusqu'à Tourcoing,
d'accord.
On va dire à Pont-de-Bois, on est à Pont-de-Bois, on est à Boucher, on est à Camus, on peut citer quelques noms, mais on va dire on est à peu près un peu implanté un peu partout, quoi. On est à Moulins,
c'est résidence universitaire de la fac de droit et de la fac de sciences politiques, c'est
voilà,
ça.
Voilà, tu vois. Donc du coup, on est un peu partout, quoi, du coup. Donc du coup, on essaie de venir en aide à tous ces étudiants. Et aussi, on va dire, à la Férule, la règle, c'est pas de vivre en résidence, mais on va dire l'idéal, c'est de vivre en résidence.
Oui.
Et tous les membres du bureau, ils vivent en résidence.
Ça, c'est bien.
Voilà, du coup, ils connaissent. Et pourquoi on vit en résidence? Parce que, du coup, quand on va dire, c'est à nous de nous battre pour nous-mêmes d'abord, et en même temps, on connaît mieux, on va dire, les problèmes des résidences, quoi. Quand vous vivez en résidence, c'est pas, vous connaissez bien et du coup vous êtes confronté à ça chaque jour, quoi. Du coup, vous pouvez vous défendre, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, si, je vois carrément. C'est mieux que c'est des étudiants qui vivent, qui subissent au quotidien les problèmes qu'il y a en résidence, qui soient au bureau d'Aferud et qui travaille là-dessus, en fait. Il y a pas de problème, je comprends très bien Boubacar. Bon, on va peut-être faire une petite pause musicale. Jimmy Jazz des Clash, si ça dérange pas la technique, voilà. Bah à tout de suite et on parlera. On parlera des, plus spécifiquement du logement pour les étudiants et du logement étudiant à l'université. Voilà. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Yeah. Oui, vous êtes toujours sur Radio Campus, l'émission Derrière la Vitrine, l'émission intersyndicale de Radio Campus. Bonjour, moi je suis Yvain, je suis étudiant, arrivé juste pendant la pause musicale. On parlait à l'instant du logement étudiant, spécifiquement du logement Crous, mais évidemment il n'y a pas que vers le Crous que les étudiants et les étudiantes se tournent pour se loger, pour avoir son petit coin. Il y a aussi le parc privé. Et le parc privé, ouais. C'est ce qui concerne la grosse majorité des étudiants, pour rappel, ou pour info. Ouais. Plus de 50% des étudiants se logent en parc privé, que ce soit en appartement ou en résidence privée, pour certains, en HLM.
Ouais, donc du coup, on parlait au début un petit peu des gens qui habitent encore chez leurs parents, mais c'est quand même une partie très très importante de la partie des étudiants qui habitent dans un logement privé, en location tout seul ou en colocation. Sachant qu'en colocation, c'est mieux pour les étudiants pour après supporter des loyers parce que. Tout seul, on avait regardé un peu pour les statistiques avec Yvain notamment. En 2013, selon l'Observatoire de la vie étudiante, le loyer moyen d'un étudiant était de 420 € par mois, ce qui est quand même assez,
426,
assez cher.
426 pour être précis.
426, pardon. Donc c'est quand même un.
Ça, c'est par mois.
Ah ouais. Ouais, voilà. Donc on
mais
est comme.
Résidence, est-ce que j'allais dire, mais en résidence universitaire, c'est pour ça, c'est, les résidences sont là, quoi, on va dire, parce que c'est moins cher, on va dire. C'est à peu près, mais ouais. Ça dépend des logements. Il y a les traditionnels, on va dire, c'est.
Les résidences traditionnelles, voilà, ouais.
Les traditionnels, après, il y a les rénovés. Il y a les réhabilités, mais on va dire, ça dépend, ça peut être 250 à, on va dire. Ça, après, ça dépend si vous
150, avez... 200 à peu près, c'est ça?
Ouais, on va dire 150 ouais. À 200 dans l'échelle, quoi, on va dire. Ouais. Et après, avec la CAF, ça
avec les APL, quoi. Ouais, enfin, les allocations de logement. Oui, bah du coup, oui, 420 €, c'est une moyenne nationale. Après, il faut pas oublier que dans la moyenne nationale, il y a aussi Paris, donc...
Paris, 400 €, c'est un loyer plutôt modeste.
Voilà. Ça, c'est sûr.
Mais bon, Lille est quand même une des villes les plus chères de France en termes de logement. On est, je crois qu'on est 5 ou 6e, je sais plus. Il faudra que je me renseigne. Mais du coup, oui, Yvain disait que c'était 50% des étudiants qui avaient un logement privé. Du coup, il y a des différents types de logements. Il y a des appartements, il y a des petites maisons, parce qu'on est dans le Nord, il y a beaucoup de courets, etc.
D'anciennes petites maisons ouvrières qui ont été rénovées pour accueillir 3 ou 4 étudiants.
Souvent, en plus, c'est des maisons qui ont été transformées, qui ont été indivisées, qui sont coupés en appartements, voilà. Et du coup bah évidemment le propriétaire se fait un peu plus d'argent parce que ça fait plus de logements coupés, voilà. Du coup en fait des étudiants n'ont pas un statut spécifique de locataire. Quand tu es locataire, tu as des droits, et ça des fois les propriétaires l'oublient assez souvent en fait, qu'on a des droits en tant que locataire. En tant que locataire, notamment, par exemple, on peut pas se faire expulser pendant la trêve hivernale, entre le mois d'octobre et le mois de mars. Se faire expulser si on a des dettes de loyer, notamment. C'est une procédure très longue qui s'appelle la procédure d'expulsion locative qui dure plusieurs mois, on va dire. Et en fait, mais la trêve hivernale concerne les logements du parc privé, mais ne concerne pas les étudiants au Crous. Parce que les étudiants au Crous, les étudiants en résidence universitaire ne sont pas des locataires, en fait. Justement, les étudiants dans les résidences universitaires sont des occupants avec droits et titres. C'est une grande différence.
C'est pas du tout le même droit au logement qui s'applique pour les étudiants en résidence universitaire. Mmh.
Vous avez en résidence universitaire, vous avez ce qu'on appelle un contrat, un bail précaire et révocable. Si jamais il y a plusieurs infractions au règlement qui parfois est un petit peu bourrin quand même. Enfin, on n'a pas le droit d'avoir un animal, on n'a pas le droit d'avoir plein de trucs. Enfin,
bah, en gros, parce que récemment, on avait comme. Et c'est pour revenir d'abord, et on va dire. Parce que en gros, et j'ai les chiffres exacts ici, c'est qu'en gros, en résidence universitaire, il y a 7% d'étudiants.
Dans toute la France.
Moi, on va dire dans Lille. Quoi.
Ah non, Lille, c'est 10%. Voilà. On avait, tout à l'heure, je disais 10% à Lille, mais c'est 7% dans toute la France. Oui.
Ah ok, 7%. Donc du coup, ce que j'allais dire. Et du coup, et maintenant, le truc, et c'est que 7% dans la France et 10% à Lille, comme tu l'as si bien dit. L'année passée, on avait fait, on va dire, on a eu une réunion pour revoir les règlements intérieurs. Parce qu'on s'est dit que, on va dire, les règlements intérieurs, et on va dire, ça... Je sais pas comment vous expliquer, c'est on va dire ça dépend des résidences, parce qu'il y a les résidences conventionnées, il y a les résidences
traditionnelles. Ouais.
Traditionnelles aussi, c'est différent d'une chambre traditionnelle, quoi. Ça veut dire que les résidences rénovées et conventionnées, ils ont pas les mêmes, on va dire, mêmes règlements intérieurs qui s'appliquent comme dans les résidences traditionnelles, quoi. Et du coup, ça dépend des résidences, et comme je l'avais bien dit, dans les résidences et franchement, moi, depuis que je suis arrivé en résidence, j'ai pas vu de cas, comme vous avez dit, il se peut qu'on mette des gens comme ça.
Ça dépend des résidences.
Voilà, ça dépend des résidences, mais j'ai pas vu des cas comme ça d'expulsion du jour au lendemain. Mais après,
non,
on te prévient, comme tu as dit, on te prévient genre. Et
oui, ils préviennent quand même. Ouais.
On te prévient genre et au moins et 3 mois de délai, quoi, je pense.
Et ça, je ne sais pas les mois de délai, mais c'est vrai que ça concerne, ce que je disais, ça ne concerne pas des, par exemple, il y a des résidences qui sont conventionnées par des bailleurs publics comme, je sais pas, dit Métropole Habitat, enfin, des agences d'HLM qui conventionnent des résidences. Là, dans ce cadre-là, je crois que vous pouvez avoir un statut de locataire. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est pas la même chose dans toutes les résidences. Il y a des résidences qui sont gérées par le CROUS directement. Ça, c'est du coup, le CROUS, c'est pas considéré comme on n'est pas considéré comme un locataire. Puisque c'est le CROUS, c'est comment dire, comme j'expliquais, vous êtes occupant avec droit à titre, parce que c'est un bail, c'est pas un bail normal, c'est pas la même chose. Mais après, oui, il y a différents types de résidences qui du coup entraînent différents statuts légaux, donc c'est assez compliqué.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. En gros, et ce que j'ai remarqué, c'est pas pour les résidences, on va dire, vu que moi je suis dans le CROUS, mais dans le CROUS aussi, un étudiant il peut avoir, on va dire, jusqu'à 3 mois de retard de loyer. Je sais pas si ça existe dans les autres et dans les autres.
Ça dépend, quoi. Ça dépend. Dépend.
Non, parce que je t'explique. Et moi, j'ai assisté au
CAVRE. Ah, autant pour moi, pardon.
CAVRE, c'est Conseil académique de vie en résidence. Du coup, on vous donne, on va dire, et vous avez 3 chaque année vers mai. C'est-à-dire qu'on vous amène une liste où vous voyez le nombre d'étudiants. Il n'y a pas les noms, mais on va dire, il y a des étudiants qui n'ont pas, tel n'a pas payé, ça fait combien de temps il n'a pas payé. Et vous voyez des impayés au-delà de 3 mois. Du coup, je pense que je ne sais pas si dans les autres logements, il y en a, mais au CROUS, je pense que avant de vous mettre d'abord. C'est-à-dire
qu'on vous prévient.
Et nous, notre but aussi, c'est d'aider. Parce qu'un étudiant qui n'arrive pas à payer, c'est pas qu'il ne veut pas payer, c'est qu'il a des problèmes. Et nous, notre truc, c'est de diriger vers les assistants sociaux ou bien vers des structures qui peuvent lui venir en aide. Parce que c'est ça le truc. C'est comme si je vous dis ici, quelqu'un qui n'arrive pas et qui mange qu'une fois par journée, c'est pas qu'il veut pas manger, c'est juste qu'il n'a pas les moyens de manger, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit, on est là pour les étudiants qui ont des problèmes. S'ils viennent souvent, nous, on est là pour les résidences. Mais après, s'il y a des étudiants qui ont d'autres problèmes que dans les résidences, on les dirige aussi vers, peut-être s'il y a des étudiants qui ont des problèmes avec l'université, on les dirige vers vous, le sud étudiant. S'il y a des étudiants qui ont des problèmes avec, avec leur bourse, on les dirige vers l'assistance sociale, ou bien c'est pour compléter leur DSE, on les aide, ainsi de suite, quoi.
C'est bien, vous faites un travail d'information dans les résidences, vous êtes à l'écoute des étudiants, c'est une très bonne chose.
C'est assez nécessaire, vu tout ce qu'on a pu évoquer par le passé, de ce qui concerne les résidences, que ce soit les expulsions les gens qui meurent de faim.
Ouais, voilà.
Bon. Ouais, c'est ça qu'on disait même avant que tu viennes, parce qu'on a dit qu'on avait fait une marche aussi pour Père à son âme et l'enfant. L'étudiant maoré qui était mort, quoi. Donc c'était pour ça. Et en même temps, on va dire, et cela, on va dire, a évoqué deux trucs. C'est pas qu'il y a l'isolement, il y a la précarité. Et c'est pour ça que je te le disais, pour tout un chacun, essayer de saluer, on va dire, essayer d'être sociable, quoi. Et en même temps, nous, on se bat de notre côté et adhérer à la férule, aider à mettre de la vie en résidence. Oui. Ça, c'est ce que nous, on peut faire, quoi. Regarde, et même là, ce qu'on dit, oui, first, imaginez, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas Internet pour vous connecter, c'est compliqué, quoi. Vous êtes renfermé sur vous, quoi. Et là, parce que comme on l'a dit, depuis 2013-2014, oui, first, c'est devenu obligatoire dans les loyers, quoi. Mm-hmm. Et du coup, c'était, comme je l'ai si bien dit, c'était 15 euros, mais on s'est battu pour que ça soit vers 9-10 euros, tu vois.
Tout à fait, mais qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, peut-être qu'on va revenir sur d'autres problèmes spécifiques au logement pour les étudiants.
Oui, tout à l'heure on était un peu sur le parc privé. Par exemple, il faut savoir quand même qu'on a dit tout à l'heure, quand on est étudiant mais locataire dans le parc privé, on n'a pas statut spécifiquement étudiant. Par exemple, il y a un truc auquel on n'échappe pas en tant qu'étudiant, c'est la taxe d'habitation.
Ah oui,
par exemple. La taxe d'habitation, pour rappel, c'est une taxe que l'on paye si on est locataire. Ou qu'on habite si on est locataire pendant plus d'un an. C'est-à-dire que sur une période de 1er janvier au 31 décembre, si on occupe le même logement, on reçoit une petite lettre qui dit « Bonjour, merci de payer votre taxe d'habitation l'année d'après ».
Bon, ça ne concerne pas les étudiants en résidence universitaire.
Non,
c'est presque normal, je dirais, moi.
Voilà. Donc, effectivement, c'est quand même un petit peu compliqué quand on est étudiant d'avoir payé une taxe d'habitation comme un petit peu n'importe quel autre impôt. Donc, si vous êtes étudiant et que vous recevez une telle demande, il faut essayer de demander un recours gracieux, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exonération spécifique pour les étudiants, mais on peut demander une réduction ou une mensualisation ou une exonération totale. Moyennant, bien sûr, de justifier cette situation financière. Évidemment, quand on est étudiant, une situation financière, on n'a pas la plupart du temps, on n'a pas une... qui est mirobolante. Donc il ne faut pas hésiter à adresser un courrier. Le courrier, il s'adresse au centre des impôts ou au service des impôts des particuliers dont vous dépendez. Enfin, ça dépend de, justement, ça dépend de la zone géographique.
Ou si vous dépendez du centre des impôts de vos parents, ou si vous dépendez du centre de votre propre centre d'impôts, vu que vous êtes indépendant fiscalement.
Voilà. Donc ce courrier, si vous voulez vous faire exonérer de la taxe d'habitation, puis en plus en ce moment c'est un peu l'époque, doit contenir une lettre qui demande un recours gracieux, vous pouvez bien sûr développer, une photocopie et certificat de scolarité, un avis d'apposition, si c'est pas celui de vos parents, c'est le vôtre, ça dépend de votre rattachement fiscal, une notification de bourse pour les boursiers le cas échéant, et des bulletins de paye ou début de contrat de travail si vous avez cette chance-là, Parce que je ne sais pas si on peut parler de chance quand on est étudiant et salarié pendant l'année, en fait.
C'est très important de faire ce genre de démarche.
Voilà.
Pareil aussi pour tous les étudiants. Bon, après, c'est très rare qu'ils ne font pas. Il faut obligatoirement faire des demandes d'APL, en fait.
Pour les APL, c'est plus intéressant à partir de 20 ans.
Ouais.
Parce qu'auparavant, au niveau de la CAF, c'est peut-être moins intéressant. C'est-à-dire que si un étudiant peut demander les APL à partir de 18 ans. S'il le demande, ses parents se verront supprimer plusieurs autres aides.
Oui,
je sais plus lesquelles.
Tout à fait. Ça dépend des situations personnelles, en fait.
Faut pas hésiter,
surtout quand on est boursier, en plus, c'est 130 euros, quelque chose comme ça, d'APL. Quand on n'est pas boursier, c'est 90 euros d'APL. Bon, c'est pas énormément, mais ça fait quand même quelque chose pour le loyer quand on se retrouve à payer des loyers de 420 euros.
comme on a dit, c'est pour ça aussi, ça aide surtout les étudiants qui sont en résidence, ça permet de réduire les charges aussi, comme tu l'as si bien dit.
Ouais.
Quoi. Donc du coup, franchement, il y a souvent aussi il y a des étudiants qui rencontrent des problèmes avec la CAF aussi. Donc on les aide dans leur démarche, quoi.
Ouais.
Comment faire pour, on va dire, se faire rembourser ses droits et ainsi de suite, quoi. Parce que souvent, la CAF aussi, c'est-à-dire souvent, c'est le crossier, la CAF, il se renvoie la balle. Ou bien souvent, on vous demande d'envoyer un document 3-4 fois. Du coup, on est en train de mettre en place, on est en train de voir avec le crossier si on peut essayer de faire un truc pour que les étudiants se dirigent vers le crossier, que ce n'est pas directement, parce qu'il y a des soucis avec la CAF aussi, quoi, pour certains. Quoi.
Il y a des soucis avec toutes les administrations en France.
C'est sûr.
Du coup, on va peut-être faire une petite pause musicale avec Wake Up de Rage Against the Machine. Si vous avez envie de tout cramer, c'est le moment.
Thank you. what you reap is what you sow.
Alors vous êtes toujours sur l'émission Derrière la vitrine, l'émission intersyndicale de Radio Campus, à fréquence 106.6. On parle toujours du logement étudiant, des résidences universitaires. En général, là on va parler d'un truc un peu plus spécifique qui s'appelle la caution locative étudiante.
La clé, ouais.
Voilà, la clé pour les intimes. Il faut savoir que quand on a un loyer à payer et qu'on loue que ce soit aussi bien une chambre crousse qu'un appartement dans le privé, il faut un garant, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui... quelqu'un qui puisse garantir que si vous payez pas, vous payez pas le loyer, il y aura quand même quelqu'un pour le faire à votre place globalement. Je trouve que beaucoup d'étudiants n'en ont pas forcément parce qu'ils sont en rupture familiale, en difficulté financière. Il faut savoir à ce moment-là que le CROUS peut permettre de se proposer comme garant à votre place.
Pour des résidences ou pour des appartements?
Pour les deux, il me semble.
Pour les deux, ah oui, pour des, ils mettent en lien avec des bailleurs, oui, d'après mes souvenirs, oui, c'est ça aussi. Oui,
mais après, on va dire, il y a des taux d'intérêt aussi, je pense que, et c'est quand même le taux d'intérêt, et c'est pas, on va dire, c'est une caution, et c'est sous forme de garantie, mais on va dire, vous devez payer un truc, je pense, c'est 2%, je me souviens pas trop. Quoi.
Oui, quelque chose comme ça, enfin, c'est résiduel.
Oui.
Ouais. Et du coup, alors, est-ce que, d'après ce que t'as entendu, Boubacar, ça marche bien la clé? Il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent?
Bah, j'ai entendu, il y avait un moment, ça marchait, mais sauf que là, j'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit que pour lui, ça marche pas un peu. Mais après, pour certains, ça marche. Mais après, je sais pas si le cas, c'est général. Mais j'ai vu un étudiant, il y a récemment, il m'a dit qu'il avait un souci avec sa clé, alors qu'il a déjà fourni tous les documents et qu'on a interpellé il y a même pas longtemps pour lui dire qu'il a un souci avec sa problème de clé, quoi.
D'accord. Okay. Et... bah, du coup, c'est comme c'est un dispositif qui est tout récent, il date de l'année dernière. Quoi.
2014, effectivement.
Enfin, ouais, il y a deux ans. Du coup.
Créé, donc c'est un peu en expérimentation, en quelque sorte.
Ça met un peu de temps à
se mettre. Après, je connais d'autres personnes aussi avec qui ça marche, mais après, on va dire, on va attendre de voir si le cas il est général pour essayer de faire quelque chose.
Tout à fait. Ouais. Oui. Mais alors, du coup, on parlait de la clé, mais. On parlait.
D'ailleurs, pour la clé, il y a juste un truc qu'il faut savoir, comme pour beaucoup de dispositif étudiant, c'est que ça ne marche pas au-delà de 28 ans.
Ah bon?
Ouais.
Ah, bah ça c'est dommage.
Bon, parce après, ça concerne effectivement peu d'étudiants,
peu
mais ça concerne quand même.
Il y a quand même des étudiants, des doctorants qui des fois ont plus de 28 ans.
Et donc sans formation continue.
Donc sans formation continue, des retraités qui reprennent des études. Bon, après, c'est négligeable par rapport au reste, mais bon, c'est dommage. Mais bon.
À ce moment-là, il faut savoir que s'il n'y a pas de... Enfin, la clé n'est qu'un dispositif spécifique créé par le CROUS. Mm-hmm. Il y en a d'autres, des dispositifs permettant d'avoir un dépôt de garantie, qui sont plutôt gérés par l'État.
Oui.
Comme, je vois, garantie risque locatif, GRL, qui doit être un truc qui dépend de la CAF, il me semble.
Oui, je pense aussi, oui, la GRL, je crois que c'est la CAF. Bon, encore une fois, la CAF.
Voilà. Bon, c'est des aides qui ne sont pas spécifiques aux étudiants,
oui, non,
une
non,
fois,
non.
Mais qu'il ne faut pas hésiter à demander parce que les étudiants sont quand même parmi les précaires.
Oui, tout à fait. Oui, il faut, comme on disait tout à l'heure, il ne faut surtout pas hésiter à demander des aides. Ce n'est pas parce qu'on demande des aides qu'on est considéré comme un assisté ou quelque chose comme ça. Enfin, on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Il ne faut pas hésiter à demander des aides, quoi. Voilà.
Et c'est comme tu l'as si bien dit, et chacun, je pense qu'on est tous passés par un moment de difficulté. C'est-à-dire que ça fait mal que, on va dire, il y a certains qui se considèrent comme aller au secours populaire, par exemple. Mm-hmm. Ça fait un coup de fierté, mais c'est rien. Il faut se dire que quand vous êtes dans le besoin, allez-y, quoi. Franchement, ça coûte rien. Et il faut essayer de. Il faut pas se prendre et se dire, ouais, franchement, il faut pas penser parce que, on va dire, c'est le moment. Après, tout, ça peut bien se passer, quoi. On va dire, c'est le jour au jour. Il y a des moments, c'est comme la vie, il y a des bas et des hauts, quoi.
Ouais, bah, en même temps, quand tu vois qu'il y a 45% des étudiants qui se salarient. Déjà ça veut dire que il y a un problème. Enfin, ça veut dire que les étudiants peuvent pas s'en sortir avec l'aide de leurs parents ou seulement avec leur bourse, quoi.
Ouais, et comme tu l'as bien dit, et j'avais fait une étude récemment dessus, mais je sais pas si j'ai les chiffres en tête ou pas. Mais en gros, on a regardé ça, il y a des étudiants qui veulent être salariés pour être indépendants aussi vis-à-vis de leurs parents.
Leurs parents, oui.
Ouais, ça c'est indépendant de ceux qui aussi, on va dire, qui veulent y travailler. Pour, on va dire, pour compléter leur truc. Mais on va dire, le travail et les études, c'est pas facile. C'est pour ça, et dans l'étude qu'on faisait, c'était pour essayer de voir si on pouvait, mais ça c'était, on va dire, en dehors de la férule, c'était pour voir si on pouvait faire et essayer d'adapter des horaires d'examen aux étudiants qui sont salariés, quoi. Parce qu'on va dire, ils sont pas dans les mêmes conditions que les autres, quoi.
Oui, vous voyez, il existe des dispenses d'assiduité sur toutes ces, enfin, sur certains UFR dans certaines universités. Ça dépend des endroits. Ça existe à l'INA dans la fac de sociaux, ça existe à l'I3. Mais des dispenses d'assiduité, par exemple, c'est quand vous travaillez, à l'I3, c'est plus de 10 heures par semaine, vous pouvez passer un examen terminal et pas être obligé de passer des contrôles continus, et vous pouvez être dispensé de cours aussi. Mais il faut amener son contrat de travail à son UFR, à son secrétariat, et en général, ça passe. Bon, on va des fois, les profs serrent un peu les dents, mais il faut aller voir les syndicats étudiants quand c'est comme ça.
Mais le souci aussi avec ça, c'est que ça, c'est bien ce que je dis, mais après, quand vous voyez ça, après, un étudiant qui part pas au TD, qui assiste pas au TD, et qui part, après, ça va jouer sur les examens terminaux, quoi. Donc, pour dire que, il faut qu'on essaie de voir un truc, il faut qu'on essaie d'adapter réellement, quoi. Parce que ça, c'est bien, si, parce que même moi, dans ma filière, ça existe, mais après, est-ce que c'est la bonne solution, quoi?
Ah, c'est compliqué. Voir, et quand t'as des problèmes liés au travail, au logement, à tes papiers, en plus quand t'es étudiant étranger, c'est un peu la galère. Quand toutes ces galères se mêlent, des fois les profs se rendent pas compte que les étudiants ont beaucoup d'emmerdes à l'université. Et du coup, des associations comme la Férus, des syndicats comme Sud Étudiants en Ligne sont là pour les aider dans leur démarche. Et du coup, n'hésitez pas à venir nous voir, nous en permanence à l'île 1, l'île 2, l'île 3, enfin toutes les universités, et la Férus, allez les voir. Pendant leurs soirées, dans leur résidence, et pendant leurs actions. Et voilà. Enfin, du coup, voilà, cette émission va prendre bientôt fin. Nous avons fait une émission sur le logement, c'était cool. Merci Boubacar. Merci Nadia pour la technique.
Merci à vous tous, on va dire.
Et merci à Radio Campus, quoi.
Comme on l'a dit, adhérer aussi à la Férule, quoi. Adhérez-y. Et pour le bien-être de tous les étudiants, quoi.
Et c'est le mot de la fin.
On va passer après à l'émission classique sans complexe.
Et là, on va générique. On va écouter le petit générique MAP debout là-dedans. Merci à tous. Salut.
C'est quoi ça?
Debout là-dedans, bordel! Allez, debout là-dedans!
C'est quoi ce bordel?
Elle debout là-dedans! Motez tes troupes, tactique, on lève le camp dealer! Qu'on veut pas de commentaires, que des combattants dealer! Qu'on veut pas de militaires, que des militants! Elle debout là-dedans!
Les fractaires, contaminés! Fais le forcing, sort la tiraille, sort les munitions, l'artillerie, braquée!